Merci. Merci à Marianne, merci à Ketia. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui, c'est le premier de deux dimanches qui sont consacrés à l'Église persécutée. Et je pense que c'est vraiment bien qu'on puisse s'identifier à ce que vivent les personnes qui sont persécutées pour leur foi. On ne se rend tellement pas compte en Suisse. Mais en même temps, avec ce qu'on est en train de vivre avec le Covid, c'est vrai que tout est bouleversé et c'est vrai qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences du confinement du printemps. On est de nouveau en quart ou en semi-confinement et il y a des conséquences. Il y a des conséquences humaines, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui sont décédées, même dans notre entourage. Il y a des personnes qui ont perdu un emploi, des situations qui sont devenues vraiment précaires. C'est des difficultés et je pense que ça peut être l'occasion qu'on fasse des liens avec l'Église persécutée. Pour nous, on va dire que c'est transitoire, même si on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais on a quand même des assurances sociales, on a quand même beaucoup de choses qui font qu'on peut continuer à vivre. Pour les chrétiens persécutés, selon leur situation, c'est vraiment leur vie qui est hypothéquée, c'est la vie de leur famille qui est hypothéquée. Alors, je vais vous mettre le diaporama. Donc là, vous avez déjà la page de titre, en fait. Le programme d'aujourd'hui, il est basé sur Porte Ouverte. Porte Ouverte qui chaque année organise une journée, un dimanche de l'Église persécutée. Et ce qu'ils ont choisi comme thème, c'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et ce thème, on le trouve dans le psaume 46. Alors, le contexte du psaume 46, mais en fait, c'est que le peuple était confronté à un épisode effrayant qui avait rien à voir avec une pandémie, une maladie. C'était pas ce contexte-là, mais c'était en fait le contexte de l'invasion assyrienne du royaume de Juda et la ville de Jérusalem qui était assiégée. Et c'était à l'époque du roi Ézéchias et du prophète Ésaïe. Donc c'était vraiment un contexte de peur, de difficulté. Et je vais vous lire ce psaume, le psaume 46. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'était vraiment la peur, c'était la terreur qui s'était emparée des habitants de Jérusalem face à des envahisseurs qui étaient connus pour leur très grande cruauté. Mais Dieu, il a entendu leur prière. Il est intervenu. Et ce qui s'est passé, c'est que l'armée de Sanchérib, le roi d'Assyrie, a été soudainement décimée. Elle a été décimée par l'intervention de l'ange de l'Éternel. Vous vous souvenez cette expression, l'ange de l'Éternel, qui est associé à Jésus dans l'Ancien Testament. Et du coup, cette armée a fui et ça a redonné espoir aux habitants de Jérusalem. Et au verset 6 du psaume 46, on peut lire « Dieu est au milieu de sa ville, elle n'est pas ébranlée. » Et les descendants de Corée qui ont écrit ce psaume, c'était les assistants au service du temple. Ils disent au verset 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui. » un secours toujours présent dans la détresse. Et leur exhortation, c'est à tenir ferme, c'est à garder l'espoir. Et on le voit au verset 10. Dieu a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Donc c'est Dieu qui est maître des circonstances. C'est Dieu qui remporte la victoire pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager et qui encourage aussi les chrétiens persécutés. Alors c'est vrai que le psaume, il pourrait s'arrêter là. Quand il y a de l'adversité, quand il y a de la terreur, de la difficulté, on sait que Dieu est notre refuge, Dieu est notre secours, c'est lui qui fait cesser la guerre. Mais en fait, au verset 11, eh bien, il y a autre chose qui va beaucoup plus loin que ce qu'on vit sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Au verset 11, il y a cette injonction qui nous dit « arrêtez ». En fait, ce n'est pas un appel à ralentir. C'est un appel à cesser toute activité, qu'elle soit physique ou mentale. On est souvent dans un rythme effréné. Si on ne prend pas attention, si on ne prend pas garde à nous-mêmes, on commence notre journée, on finit notre journée, on se rend compte qu'on ne s'est pas arrêté, que ce soit dans nos actes, dans les choses qu'on a faites, dans le faire ou dans nos pensées. Et puis là, on se rend compte qu'il y a un arrêt qui est nécessaire, s'arrêter devant Dieu. Alors la question c'est, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut s'arrêter devant Dieu? Eh bien, dans Jacques chapitre 4, verset 8, il nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de lui ». Et en fait, le but de s'arrêter, c'est pour s'approcher de Dieu. C'est pour apprendre à le connaître. C'est pour apprendre à mieux connaître notre Père. Et pour connaître Dieu, le chemin qu'on doit emprunter, ben c'est l'arrêt. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter pour bâtir une relation de dépendance avec lui. Et à ce niveau-là, l'Église persécutée, elle a une leçon importante à nous donner à ce sujet et elle nous pose la question. Comment Dieu se révèle-t-il à ceux qui sont forcés de tout arrêter, à ceux qui sont marginalisés, à ceux qui sont opprimés ou emprisonnés pour leur foi en Jésus? Comment est-ce que Dieu se révèle aux personnes qui sont obligées de s'arrêter? Ces moments d'interruption, ils peuvent être terrifiants, ils peuvent être longs, ils peuvent être beaucoup plus longs que le premier confinement qu'on a vécu au printemps, ils peuvent être beaucoup plus longs que celui qu'on est en train de vivre, même si on ne connaît pas l'issue, mais c'est un petit confinement ce qu'on est en train de vivre. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir combien un temps d'arrêt doit durer. Mais en fait, quand Dieu nous dit « arrêtez », il y a deux solutions possibles. Soit je m'arrête moi-même, soit c'est Dieu qui m'arrête. Et si on réfléchit, je crois qu'on a tous des circonstances de vie qui font que, à un moment donné, dans notre course effrénée de la vie, on a eu des arrêts. Alors, est-ce qu'on s'est arrêté soi-même? Est-ce que c'est Dieu qui nous a arrêtés? Est-ce que c'est des circonstances qui ont fait qu'on a dû s'arrêter et on a profité de s'arrêter devant Dieu? Mais l'arrêt devant Dieu, il découle toujours à quelque chose de positif. Et si on fait le décompte dans la Bible de toutes les personnes qui ont été arrêtées, on voit que la plupart du temps, c'était l'initiative de Dieu et pas celle des hommes. La plupart du temps, c'est Dieu qui disait « Maintenant, stop. Maintenant, arrête le rythme, viens devant moi. Et ensuite, tu repartiras. » Et pour ça, on a un témoignage du pasteur Wang Ming Dao qui a été en prison pendant 23 ans en Chine. Je vais vous passer une vidéo.
Wang Ming Dao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeter en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas? A-t-il demandé. J'ai répondu, oui, beaucoup trop. Et il a rétorqué, c'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. Il m'a expliqué, voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il n'y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais... En fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire.
C'est le psaume 23 qui m'a accompagnée dans les moments difficiles. En prison, surtout quand les gens mouraient à mes côtés, quand tout semblait sans espoir, au milieu des persécutions, le Seigneur était mon pilier, il était mon phare. Chaque fois que j'étais au plus bas, je récitais ce psaume. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit l'Écriture. Quand je suis arrivée à la prison, j'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi. Il y avait une clôture pour que personne ne puisse s'échapper. Elle est de forme carrée et très haute. C'est une clôture en fil de fer barbelé, avec trois lignes d'enchevêtrement. Et à chaque coin de la clôture, il y a des gardes avec des armes. Si quelque chose se passe dans la prison, les gardes peuvent tirer des coups de feu aux quatre coins. Et en plus, il y a une porte en fer vraiment gigantesque. Au-dessus de cette porte sombre, il est écrit « Ne fuyez pas. S'enfuir mène à l'autodestruction. » Chaque fois que des gens regardent cette phrase, ils sont impressionnés, découragés. En regardant cette porte, j'ai dit « Dieu, je franchis cette porte aujourd'hui. Est-ce que je serai encore vivante pour la franchir à nouveau dans 3 ans ?» Je priais en larmes. Et le Seigneur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. » Il m'a parlé ainsi. J'ai mis ma foi en Jésus, qui a promis d'être avec moi, même sur le chemin le plus sombre. Je pourrai franchir à nouveau cette porte, avec l'assurance que je ne mourrai pas. Dans la prison, les hommes et les femmes étaient séparés. Tous les détenus semblaient sur le point de s'évanouir. Ils étaient tous désespérés. Et en plus, ils étaient affamés. Chaque personne recevait une poignée de maïs pourri par jour. Il n'y avait rien d'autre à manger. On recevait aussi quelque chose de liquide. Ce n'était même pas une soupe. Nous avions ça à manger toute l'année durant. Il n'y avait rien d'autre. Et on était obligé de travailler plus que des bêtes de somme. Et comme tout le monde était obligé de travailler, les gens mouraient de malnutrition. Tant de morts. Et il n'y avait aucun espoir dans la prison. Tous étaient au bord de la mort. La seule raison pour laquelle j'ai pu en sortir vivante ? Personne ne m'a rendu visite, mais Jésus était toujours avec moi. J'ai continuellement médité sur la parole. Je louais Dieu en chuchotant. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Je chantais des louanges en secret. Et quand j'étais découverte par le garde, j'étais battue presque à mort. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vivants de cette prison. Dieu m'a protégée par sa grâce.
In 살리신 주 은혜 고마워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네
Alors que je chante Amazing Grace, de plus en plus, je réalise que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduite à Jésus. Je me rends compte à quel point j'étais pécheresse. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. C'est pourquoi je pleure chaque fois que je chante cet hymne. Parce que je suis si reconnaissante pour sa grâce. Se concentrer sur Jésus-Christ afin de suivre sa volonté sur cette terre, me consacrer et être prête à donner ma vie, c'est ça la foi. Vivre pour sa gloire et lui donner ma vie. Et aussi avoir confiance en toutes ses promesses. J'espère pouvoir conserver une telle foi.
Voilà des exemples de personnes qui ont été arrêtées. Et le pasteur Wang Ming Dao nous laisse un message. Et il dit, moi, on m'a poussé dans une cellule. Mais vous, vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupé pour connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. C'est une véritable leçon que ce pasteur nous enseigne. Il nous dit encore, il nous faut marcher au pas de Dieu parce que Dieu aime son jardin. Il aime s'y promener et rencontrer sa créature. Tout comme le jardin d'Éden, Dieu parcourt la terre pour s'entretenir avec ses enfants. N'oubliez pas que nous avons été créés, premièrement, pour être en communion avec Dieu et deuxièmement, pour le servir. Il est normal de travailler, mais si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. C'est quelque chose dont on a déjà parlé à une des dernières soirées de jeûne et prière. Le fait d'être avec Jésus avant d'être pour Jésus. S'arrêter, être avec Jésus, et plus on sera avec Jésus, plus tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va vivre sera pour Jésus. Et on a aussi l'exemple de Jésus. Donc si on veut que Dieu soit plus réel, il faut qu'on commence par ralentir le pas pour trouver une allure spirituelle, un rythme spirituel, ce qui est imposé aux chrétiens persécutés, mais ce que nous pouvons nous choisir de faire. Et il faut vraiment qu'on ralentisse pour le connaître. Mais on peut aussi suivre les conseils de ce pasteur chinois, Wang Mingdao, pour nous construire notre cellule, pour construire ce jardin où Dieu peut nous rencontrer. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on lit aussi dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 5, les versets 15 et 16, c'est ce que Jésus faisait. Je vous lis Luc 5, 15 à 16. On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Jésus s'arrêtait. Régulièrement, il s'arrêtait devant Dieu. Il allait dans les déserts. Dans les déserts, il n'y a rien. Il n'y a rien. Justement pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec Dieu, avec son Père. Et si Jésus avait besoin de s'arrêter et de s'isoler pour prier, à combien plus forte raison nous en avons aussi besoin? Et si Jésus en avait besoin, lui qui était Dieu, alors nous on en a encore plus besoin. Sachez que je suis Dieu. La suite du verset. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le verset 11 du psaume 46 nous dit « Sachez que je suis Dieu ». Mais est-ce qu'on sait vraiment qui est Dieu? Est-ce qu'on sait qu'il est Dieu et que moi, je ne suis rien? Plus je vais savoir que Dieu est Dieu, plus je me rendrai compte de qui je suis. Et sans Dieu, sans son intervention, je ne suis rien. Par moi-même, je ne suis rien. Par mes propres forces, je ne suis rien. Alors, reconnaître que Dieu est vraiment Dieu, c'est comprendre qu'on ne mérite rien. C'est comprendre qu'on ne peut rien par nous-mêmes. Tout ce qu'on a, on l'a reçu. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Et c'est des prises de conscience dont on a besoin. Pour pouvoir s'humilier devant Dieu, pour pouvoir s'arrêter, pour comprendre que c'est lui notre source et que quoi qu'il arrive, de toute façon, de nous-mêmes, on ne peut rien, mais lui est tellement grand, lui est tellement bon que lui, il peut tout. Et les temps d'arrêt, ils servent à savoir qui est Dieu et à savoir notre petitesse sans son intervention. Parfois, on a tendance à dire, mais en fait, on se met inconsciemment ou consciemment, on se met au devant de la scène. Puis on se dit, mais en fait, j'ai fait ça, moi je prie tant de temps par jour, ou je médite la parole régulièrement et tout ça, donc c'est ok, c'est normal que j'ai une relation avec Dieu, c'est normal que Dieu me bénisse. Mais en fait, non, il n'y a rien de tout ça qui est normal. Tout est grâce. Des fois, on pense que parce qu'on a fait notre part, Dieu y fait la sienne. Il nous bénit parce qu'on a bien agi. Mais non, Dieu il nous bénit parce qu'il est grâce, parce qu'il est amour, parce que c'est lui qui a choisi de le faire. Mais nous, vraiment, nous ne méritons rien. Tellement Dieu est grand. Et même le roi David, il était roi. David, c'était un homme proche du cœur de Dieu. Il a écrit quantité de psaumes, il a remporté des batailles, il a pris des bonnes décisions, des mauvaises aussi, mais il a vraiment été un homme exceptionnel qui a fait la différence dans sa nation. Et en fait, c'est lui qui dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Et dans un autre psaume, on peut lire « Mais qui montera à la montagne de l'Éternel ?» Et dans Malachie, on l'a entendu la semaine passée, c'est « Mais qui pourra supporter le jour de sa venue ?» L'Éternel est tellement grand et nous, on est tellement petits que c'est important de s'arrêter pour comprendre ces choses-là, pour qu'il puisse encore plus nous toucher, nous remplir, nous édifier, qu'il puisse encore plus répandre sa grâce en nous. Mais il faut s'arrêter. Il y a un autre témoignage qui vient d'Égypte, Amar, quelqu'un qui a été emprisonné 15 jours dans le noir complet. Je vais vous le lire, il n'y a pas de vidéo pour ce témoignage, mais il est vraiment effrayant. Amar, c'est un chrétien d'origine, enfin d'arrière-plan musulman d'Égypte. Et il y a quelques années, il a été arrêté, torturé. Et même pendant qu'il était pendu par les pouces, il n'a rien dit, il a refusé de révéler son réseau à la police. Alors en désespoir de cause, les policiers, ils l'ont soumis à ce qu'ils appellent l'expérience. Et ils lui ont dit « Personne ne survit à l'expérience ». Et ils l'ont placé dans un caisson carré en pierre d'un mètre cinquante de largeur, sans lumière. Tous les trois jours, on lui glissait de la nourriture et de l'eau. Et ils lui ont dit, habituellement, les gens deviennent fous le huitième jour. Parce que le noir incessant est notre dernier ennemi à tous. Et les premiers jours, Amar a résisté à son nouvel environnement, mais vers la fin de la semaine, il a commencé à craquer. Et voilà ce qu'il raconte. Je pleurais, assis dans mes propres excréments, et les voix, oh ces voix terribles, elles m'accusaient sans interruption jour et nuit. Elles disaient que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie, et je pleurais et je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate et je criais « Crucifiez-le, crucifiez-le !» Amar sentit que sa santé mentale lui échappait quand soudain Dieu est intervenu. Il décrit ce qu'il a ressenti alors. Un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule, me lavant parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait même à ce moment-là, assis dans mes excréments avec tous mes péchés, et ma foi en miettes et ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état, Christ m'aimait. 15 jours plus tard, lorsque les geôliers ont ouvert la porte, ils ont été stupéfaits de trouver une personne qui sentait mauvais, qui était fatiguée, mais une personne joyeuse et en bonne santé mentale. Alors voici le message que Amar nous adresse. Le désert est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes. Et cela nous vide de tout orgueil. En contrepartie, l'amour de Christ dont il nous remplit est d'autant plus grand que nous sommes vides. Voilà le message de reconnaître que Dieu est Dieu, que nous avons besoin de nous humilier devant lui, de comprendre combien nous sommes indignes et combien nous avons besoin de lui. Alors parfois, Dieu nous conduit dans des déserts. Ça peut être une cellule de prison, comme ces chrétiens persécutés. Ça peut être le confinement, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être d'autres choses pour que nous reconnaissions notre indignité, pour que nous reconnaissions la grandeur de Dieu. Le psaume 46, voilà comment ce qui commence. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Donc c'est quand on n'a plus rien, c'est quand on est vraiment tout au fond qu'on est en mesure de reconnaître qu'il est Dieu. Voilà pourquoi c'est nécessaire de comprendre l'indignité, de s'arrêter, de comprendre, comme au verset 12, que Dieu est avec nous et qu'il est pour nous. Et tout au long de la Bible, cette idée est répétée, elle est confirmée. Dans le psaume 100, les versets 1 à 3, ils disent « Acclamez l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. » Quelle espérance! C'est vrai, on parle d'arrêt, on parle de cellule, on parle de se rendre compte de notre indignité, mais quelle grâce! Quelle grâce d'avoir cette possibilité de connaître ce Dieu-là qui vient nous rejoindre dans notre indignité pour nous redonner notre identité en lui. Alors, quelle doit être notre attitude? Souvent, nous, on a, peut-être même beaucoup en Occident, on a le réflexe de réclamer un dû. J'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de... Ou on attend une récompense, ou on attend une reconnaissance, on attend une faveur. Mais la Bible nous apprend que ces choses, elles nous seront données dans les cieux, plus tard. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'éternité en vue. 1 Pierre 5,4 nous dit « Et lorsque le souverain pasteur ou le souverain sacrificateur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Toutes les promesses de Dieu, elles vont s'accomplir pleinement dans l'éternité. Dans la Bible, il est question de notre rôle sur la terre. Et puis dans Luc 17, elle nous dit même qu'on est des serviteurs, mais qu'on est des serviteurs inutiles. Je vous lis dans Luc 17, les versets 7 à 10. Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous « Viens vite, assieds-toi à table ». Ne lui direz-vous pas plutôt « Prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était demandé? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites « Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier, nous n'avons fait que notre devoir. » Alors, envers une telle grâce de Dieu qui est venue nous rejoindre, nous sauver, nous restaurer, nous sortir de nos excréments, nous sortir de toute notre indignité, nous pouvons choisir l'attitude de reconnaissance, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Si Dieu nous arrête, c'est qu'il a quelque chose à nous dire, mais c'est pour nous bénir, c'est pour nous faire grandir, c'est jamais pour nous écraser, c'est jamais pour nous briser, pour nous faire du mal, c'est toujours pour nous rapprocher de son cœur. Il y a un pasteur du Vietnam, Ho Hieu Ha, qui a été enfermé 6 ans dans une cage en fer au Vietnam. En 1975, il a fondé une église. Et tous les jours, les réunions, elles commençaient à 3h du matin. Et pendant 2 heures, de 3h à 5h du matin, les gens priaient. Et tous les soirs, il y avait une étude biblique. Et en fait, chaque mois, il y avait entre 80 et 100 conversions. En 3 ans, l'Église comptait 5000 fidèles. Mais le 10 décembre 1983, le gouvernement a confisqué les Bibles, les recueils de chants, il a fermé l'Église, verrouillé la porte, et il a emmené le pasteur en prison où il a passé 6 ans. Et bien, pendant ces 6 années, dans une cage en fer, ce pasteur a témoigné de sa foi, et il y a environ 96 personnes qui ont donné leur vie à Christ. Il dormait sur le sol froid, il y avait des moustiques, il y avait des sangsues, des cafards, ça grouillait dans sa cellule. Les prisonniers avaient toujours faim, ils luttaient constamment contre la maladie, ils se battaient entre eux, Et à un moment donné, ce pasteur, dans sa cellule, il a même été isolé. Pendant 16 mois, il a vu personne. Il recevait de la nourriture avariée. Mais il n'est jamais tombé malade. Pas une seule fois pendant cette période. Même quand Dieu nous demande de nous arrêter, il intervient. Il pourvoit à nos besoins, il fait des choses surnaturelles pour qu'on puisse supporter. Et voilà la théologie du pasteur Jorge Ha pour nous. Il dit, j'ai une théologie très simple. Quand vous avez des problèmes, priez. Quand vous avez de plus grands problèmes, priez davantage. Il a également souligné la valeur de la prière dans l'Église et la nécessité d'être reconnaissant, de remercier pour tout. Et quand il est sorti de sa cellule, il a écrit, il a gravé sur le mur de sa cellule, en toute chose, rendez grâce à Dieu. Donc en conclusion, pour marcher avec Dieu, il faut ralentir le pas et souvent s'arrêter. Il faut simplifier notre vie et reconnaître Dieu. Parce que nous avons premièrement été créés pour être en communion avec Dieu. En premier, pour être en communion avec Dieu. Et en deuxième lieu, pour le servir. Et si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, on va manquer Dieu. On va manquer le bonheur qu'il veut nous offrir. C'est à nous de choisir.